être artiste, pour moi, c'est une nature. Donc, c'est-à-dire que ça répond à une nécessité intérieure. On ne peut pas faire autrement. On a ce besoin, et puis ce besoin qui conditionne toute notre vie. Tous les choix qu'on fait, et par incidence, les choix des gens qu'on aime. Et voilà, pour moi, c'est une manière d'être au monde. C'est un besoin.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art ? Et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? Aujourd'hui, la plasticienne avec qui je discute s'appelle Rachel Labasti. Elle est sculpteur. La terre crue et cuite, l'argile sèche ou humide, le grès, la céramique et la porcelaine l'intéressent tout particulièrement. Ce que Rachel Labasti aime dans le travail de la terre, c'est qu'à travers elle, l'artiste peut, selon qu'elle la passe par le feu ou pas, exprimer une infinité de sensations et d'idées. Elle aime le rapport au temps et à l'expérience qu'induit la céramique. Elle a mis au point une terre crue qui ne sèche ni ne durcit et garde toujours un aspect humide. Ainsi, elle évoque un état transitoire et exprime à la fois le devenir et la mémoire de la matière terre. Rachel Labasti utilise aussi le marbre, le verre, le bois, l'osier, par un travail artisanal ancestral. Pour elle, chaque matière porte un sens, une émotion, qui va permettre de transmettre au plus juste la sensation qu'elle souhaite nous laisser percevoir. Elle a besoin d'éprouver la résistance et la nature de chaque matériau. Nous l'avons compris, Rachel Labasti parle de matériaux, de matière, de transformation, de poids, d'espace, et aborde ainsi les questions fondamentales de la sculpture et la dualité incarnée dans la matière en transformation. Elle produit des objets qui interrogent sur la condition humaine, l'identité, le nomadisme et les notions d'aliénation. Temps, entrave, enfermement, vanité, mais aussi liberté, transmission, héritage, partage, force du lien, importance du feu, du foyer au sens de la maison, sont les thématiques qui reviennent dans l'ensemble de son œuvre et dans le fil de ses réflexions. On y perçoit une perpétuelle tension entre l'enfermement, le conditionnement, et le voyage, le rapport au corps, à l'évasion par l'esprit. Alors nous sommes dans ton atelier. C'est à la fois le lieu du travail, de la création, de la mise en forme. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous décrire le processus de ton travail ?
Oui. Déjà, mon atelier, depuis une vingtaine d'années, donc j'ai eu plusieurs ateliers, mais qui étaient toujours adossés à mon habitation. Parce que pour moi, c'est important. J'aime vraiment avoir cette proximité physique avec l'atelier. J'aime pouvoir y aller plusieurs fois dans la journée. J'essaye d'y travailler chaque jour, mais parfois j'y passe juste pour le ranger, j'ai besoin d'être dedans, donc il y a vraiment un rapport, c'est comme une extension dont j'ai besoin. Souvent je pars soit d'expérience, soit de lecture, et après je pars sur des images mentales. Une fois que j'ai cette image mentale, je vais chercher le matériau qui va me permettre vraiment de retranscrire au plus juste cette sensation, parce que chaque matériau est porteur de sens, parce que je suis sculpteur et j'ai vraiment ce rapport très particulier à la matière. Je travaille beaucoup avec l'argile, avec la céramique, le marbre aussi, ça c'est mes matériaux vraiment les plus importants. Dans mon atelier, j'ai un four, donc j'ai, comme tu as pu voir à l'entrée, j'ai aussi de nombreuses terres. Je travaille beaucoup la porcelaine, mais j'ai aussi des grès. L'argile, c'est vraiment quelque chose un matériau très important pour moi parce que je le trouve intéressant par sa richesse. C'est-à-dire qu'il existe une infinité d'argiles parce que chaque région porte une terre différente. Parce qu'une argile, c'est le vécu d'un lieu. Donc chaque gisement a des particularités. Il peut y avoir du fer, du manganèse. Et chacune de ces particularités va faire que la terre, elle va avoir des températures de cuisson différentes, elle va avoir des textures différentes, et donc elle va transmettre des sensations différentes. Donc à chaque fois, une porcelaine, elle va évoquer quelque chose de différent qu'un grès, et selon la température où je la cuis aussi, elle va transmettre des choses différentes, c'est-à-dire qu'elle va porter un son différent. Une terre, si on la cuit à différentes températures, elle n'a pas le même son, elle n'a pas le même toucher, elle n'a pas le même aspect. Donc ça, c'est des choses que je trouve intéressantes avec la terre. Donc je la travaille crue. Par exemple, toute cette série que tu as pu voir des tableaux caisses ou des sculptures caisses. Donc je travaille dans des formes qui rappellent des caisses de transport. Et à l'intérieur, je viens intervenir avec une argile que je fabrique. Donc il y a vraiment ce temps aussi qui m'intéresse, qui est le temps de la fabrication de l'argile. Et en fait, cette argile que je fabrique, elle ne sèche pas et elle reste toujours dans cet état entre deux. Donc elle porte ce rapport au temps où tout est possible, parce qu'il y a ce rapport au geste qui pourrait être transformé. Donc il y a toute cette poésie qui me parle et qui fait que j'ai eu la nécessité vraiment de faire cette terre. Et j'aime bien cette idée d'habiter le temps de la fabrication de la matière et ensuite de mettre en forme cette matière. Donc c'est un rapport au temps qui me plaît, parce qu'il y a un rapport immersif qui est un peu en adéquation avec la réalité aussi, tout va vite, et moi j'aime être dans cette lenteur et dans ce rapport au temps. Et je la cuis aussi, et quand je la cuis, je réfléchis toujours à la température que je vais choisir, au travail de surface, et la cuire, c'est l'arrêter à un certain moment donné dans le temps, mais pour toujours, donc c'est vraiment un autre rapport. Donc ça, c'est vraiment les matériaux que j'utilise le plus, en fait. C'est vraiment tout ce qui est argile, terre. Parfois, la terre aussi, je peux la mélanger à de la paraffine pour créer encore une autre matière. Je suis très sensible à ça. Et le marbre aussi qui revient de plus en plus. Le marbre de Carrare, le marbre aussi noir d'Espagne, que je travaille avec le marbre de le Negro Machina qui vient de Bilbao et qui est en fait un marbre qui normalement est utilisé pour l'architecture, qui est très cassant, mais en même temps qu'on connaît surtout poli et que moi je joue justement avec son rapport de surface, c'est-à-dire de le montrer brut et jusqu'à lisser au maximum, jusqu'à la brillance. Donc j'essaye de faire parler la matière vraiment pour ce qu'elle porte de manière intrinsèque.
Et est-ce que tu pourrais nous décrire un de ces tableaux caisses, par exemple? Donc ça se présente de manière verticale.
Tout à fait.
Mais il y a cette matière qui est, comme tu l'as décrite, qui ne sèche pas.
Exactement. Donc, par exemple, la série des tableaux caisses, qui est une de mes séries les plus récentes, c'est des caisses, l'idée des caisses de transport. Donc, dessus, on peut voir le symbole, donc les symboles qu'on retrouve sur les caisses de transport, c'est-à-dire le symbole fragile, le symbole haut, c'est bas, voilà. Et c'est du bois, donc une sorte de un bois qu'on utilise pour fabriquer des caisses. Et ces caisses s'ouvrent et à l'intérieur, j'ai fait un travail. Donc dans la dernière série que je fais, c'est le que j'appelle le cœur du corps. Je travaille avec cette argile qui ne sèche pas. Et je viens évoquer par des gestes de sculpture la forme qui peut évoquer une vulve. On peut y voir une vulve, on peut y voir une cicatrice, on peut y voir un volcan. Et c'est vraiment cette terre rouge qui parle qui évoque de là où on vient, où on repart, cette matière primordiale
qui est l'origine du monde.
Qui est l'origine du monde. Et on pense au tableau de Courbet, l'origine du monde. Et ces tableaux caisses, on peut les présenter ouverts, on peut aussi les fermer. Et on m'a raconté une anecdote intéressante. C'est justement le tableau L'Origine du Monde. Le premier acquéreur de L'Origine du Monde avait fait fabriquer un petit tableau qui disposait sur le tableau originel, qui était une petite église. Et quand il trouvait que le public était suffisamment averti dans ses dîners, il enlevait le couvercle, entre guillemets, pour pouvoir présenter l'œuvre originale.
Et ce tableau a appartenu ensuite à Lacan, qui avait mis un petit rideau aussi pour faire le même usage.
C'est ça, ce jeu de cacher.
Et donc, toi, ton couvercle peut jouer aussi ça.
Il peut jouer, donc il peut être présenté fermé ou ouvert. Donc, il joue avec ce côté caché, montré, l'intime et le public, l'intime. Mmh.
Et dans ton atelier, on voit aussi actuellement des céramiques qui évoquent des chaînes sur lesquelles tu as suspendu comme un gigantesque médaillon qui évoque un camé.
Oui.
Alors, de quoi s'agit-il?
Oui. Alors ça, c'est des pièces que je suis en train de préparer pour ma prochaine exposition à l'abbaye de Maubuisson qui s'appellera « Les Éloignés ». Et c'est le nom de la pièce elle-même, « Les Éloignés ». C'est un travail qui est parti de l'histoire des relégués de Guyane, ces femmes qui étaient envoyées en fin 1800 en Guyane, des récidivistes de petits délits, avec le but caché de l'État, c'était de les envoyer là-bas, qu'elles n'aient pas les moyens de revenir et qu'elles peuplent la Guyane et qu'elles épousent des bagnards. Donc ce travail fait référence à ces femmes et aussi à toutes les éloignées. À toutes ces femmes qu'on éloigne. Et je trouvais que c'était intéressant de le présenter justement à l'abbaye de Maubuisson.
Parce qu'elles étaient gardées par des religieuses.
Exactement, elles étaient gardées par des religieuses. Donc ces médaillons, on peut retrouver les chaînes qu'on peut retrouver dans des pièces plus anciennes de mon travail, qui sont les entraves, ces entraves de porcelaine que je modèle. Et sur ces entraves sont adossés donc, des grands médaillons de porcelaine. Et sur ces médaillons de porcelaine, j'ai fait un travail, c'est que j'ai récupéré avec des portraits de femmes qui avaient été emprisonnées à la même époque, parce que tous les portraits de ces femmes, de ces reléguées, nous n'avons aucune trace de leur visage.
J'ai voulu le reléguer et disparu.
Exactement. Et donc j'ai voulu leur redonner un visage, leur redonner une visibilité. Et les Archives nationales de la police de Paris m'a permis d'exploiter un certain nombre de portraits. Donc c'est le début des portraits anthropométriques. Donc ces portraits de face et de profil, c'est l'époque où on commençait à mesurer vraiment tout en détail les gens pour voir des traces de criminalité sur leur visage. Et à partir de ces portraits, j'ai travaillé pour reproduire de gigantesques médaillons adossés à ces chaînes. Qui portent les visages de ces femmes, en sachant qu'à la même époque, c'était les femmes justement qui étaient les femmes les plus raffinées et les plus à la mode qui portaient des camées. Donc il y a aussi toute cette histoire où il y avait les portraits de ces belles dames. Ouais. Et donc je trouvais intéressant de pouvoir offrir aussi à ces éloignées des visages, mais aussi la porcelaine
et le raffinement et
l'élégance. Voilà.
Et tu parlais de traces de criminalité qu'on pourrait retrouver sur leur visage, ce qui est quand même très inquiétant. Et elles, leur crime, c'était souvent pas grand-chose.
Tout à fait. Ces femmes qui étaient envoyées là-bas, souvent parce qu'elles ne savaient pas se défendre, c'était des femmes de province, qui venaient de petites villes, de la campagne, et qui allaient dans les grandes villes. Et les délits, souvent les délits qui revenaient, c'était vol d'un bout de pain, dormir dans la rue, parce que c'était un crime à l'époque. Avortement, parce qu'à l'époque l'avortement était un crime. Et donc ces femmes, pour des délits qui nous semblent vraiment anodins, qui étaient de l'ordre de la survie finalement, elles ont été envoyées à la torture et à la mort parce qu'elles ont eu des destins quand même tragiques.
Alors pour revenir sur le troisième médium que tu utilises fréquemment, qui est le marbre, on y voit des mains dont on ne sait pas si elles se rejoignent ou si elles se séparent. Et puis il y a des cordes, enfin des sangles qui évoquent une tension qui va les séparer.
Tout à fait. Dans mon travail, il y a souvent le rapport à l'espace. Je joue beaucoup avec l'espace. Dans H par exemple, ou dans toutes sortes de. Beaucoup, ça, l'espace revient beaucoup, le jeu avec l'espace. Et là, ce travail, il joue aussi avec l'espace parce qu'il y a ses bras, donc c'est comme. C'est des avant-bras de personnes différentes qui sont en lien l'une avec l'autre, donc il y a différentes prises entre elles. Et ces sangles bleus, c'est des sangles qu'on peut retrouver dans les sangles de transport, donc c'est des sangles industrielles qui viennent vraiment mettre en tension donc ces marbres qui du coup normalement il y a un rapport au poids et là ils sont surélevés et mis en tension par l'espace. On ne sait pas si on veut les voilà, si c'est eux qui tiennent l'espace ou si l'espace veut les séparer. Donc il y a vraiment un jeu comme ça. Et j'ai choisi le bleu. C'est des voilà, il y a dans ces sangles industrielles, il y a des couleurs comme ça, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le vert, et ce bleu m'a fait penser à Della Robbia. Et comme je suis très sensible à la céramique et à tout ce travail et au travail de la Robbia qui est magnifique de cette famille, j'ai choisi ce bleu que j'ai trouvé très fort en tension avec le marbre de Carrare et aussi avec le marbre noir.
Alors justement, tu parles de l'histoire de l'art avec Della Robbia. Est-ce que toi, tes origines familiales sont à l'origine de ton envie d'artiste? Est-ce que tu as été baignée dans un environnement qui t'a permis de développer cette envie d'être artiste?
Non, mais par contre, dans mon enfance, j'ai été très très proche de ma grand-mère, qui a été vraiment très importante pour moi. Et ma grand-mère, elle appartenait à une longue lignée de yéniches. Les yéniches, c'est des gens du voyage qui viennent du nord. Et ils avaient un artisanat, c'est-à-dire que depuis des générations et des générations, ils traversaient l'Europe et ils travaillaient l'osier. Donc il y avait l'endroit où ils ramassaient l'osier, l'endroit où ils mettaient en forme l'osier et l'endroit où ils le vendaient. Donc il y avait tout ce rapport au voyage et au déplacement. Et ma grand-mère s'est ensuite sédentarisée avec mon grand-père qui était un gitan du sud et qui était lui violoniste et ébéniste, mais que je n'ai jamais connu. Mais ma grand-mère me parlait de lui, me disait qu'il était beau et que c'était un artiste. Donc, mon enfance, il y a eu vraiment cette grand-mère qui a été importante et qui m'a parlé de toute son histoire d'enfant de la grande route, en fait, avec des histoires parfois tristes, mais qui m'a vraiment aidée à me construire. Et ça a été vraiment salvateur pour moi, ce rapport à ma grand-mère et ses histoires sur la liberté, finalement. De savoir qu'il y avait dans mon sang cette potentielle liberté. Donc c'est des choses qui m'ont accompagnée et qui m'ont donné. Et le feu revient beaucoup dans mon travail. Et c'est vrai que ma grand-mère me disait quand les gitans ont perdu le feu, ils ont perdu leur âme. Et le feu, c'est étrange comme coïncidence, mais dans mon travail, tout le rapport au feu, à la transformation par le four de céramique, aussi pour le projet que tu connais, que j'ai fait dans le village abandonné autour de la mémoire, où j'ai construit un four primitif dans le sol qui devenait un feu de partage. Et donc, c'est des questions, le cercle qui revient, des choses fondamentales dans mon travail. Donc, je pense que ça contribuer.
Ouais, c'est ça, ces éléments biographiques sont à l'origine parfois de certaines de tes œuvres, et puis aussi peut-être la question aussi de l'identité et quelque chose qui revient chez toi fréquemment et qui est quelque chose qui revient aussi très fréquemment chez beaucoup d'artistes femmes au cours du XXe siècle. Est-ce que toi tu t'inscris dans une forme de lignée ou est-ce que c'est lié plus à tes envies d'utiliser les matériaux?
Moi, je suis quelqu'un de très instinctif, donc c'est vrai que je fais les choses parce que voilà, j'ai toujours eu la nécessité depuis toute petite. J'écrivais des poèmes, je dessinais, je peignais, je sculptais, mais sans me poser la question de si j'étais artiste ou pas. C'était vraiment, j'en avais besoin. Je travaille comme ça et je pense que s'il y a des. Oui, il y a le thème de l'identité qui vient, des choses comme ça dans mon travail, c'est aussi parce que c'est sûr qu'en tant que femme, on peut. C'est pas tant notre identité profonde, parce que fondamentalement, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Je pense que c'est plus le regard que porte l'autre et tout le poids de la culture qui fait qu'on regarde finalement, l'autre regarde notre travail autrement et nous perçoit autrement. Et forcément, c'est un jeu de miroir qui fait qu'on s'interroge soi-même sur sa propre identité, parce qu'il y a eu des siècles de domestication de la femme. Et c'est vrai que culturellement, il y a un poids très lourd. Donc c'est vrai qu'il y a de magnifiques initiatives, de plus en plus d'initiatives, de choses qui se mettent en place, mais je pense que ça sera très long, parce que c'est tout un état de domestique qu'il faut casser ou transformer ou réinventer une manière d'être. Je pense qu'il y a un poids très lourd autour, une pression qui fait que... qui fait qu'on...
Ouais. Toi, tu dirais par exemple que ton travail, a priori, quand tu le fais et quand tu le montres, n'a pas forcément une origine féminine, mais c'est la réception
Tout
qui
à
en
fait.
Est faite de ce travail qui te montre que les gens le perçoivent comme le travail d'une femme.
Tout à fait. C'est le regard de l'autre qui te rappelle en permanence. Parce que je pense que dans ton, voilà, l'identité profonde, ce que tu es, ce que tu mets en œuvre, je parle de matériaux, je parle de sculpture, je parle de matière, je parle de transformation, je parle de temps, je parle de vanité. C'est vraiment des questions fondamentales de sculpture que j'aborde. Ce n'est pas des questions de féminité, qui est en lien à la féminité. Mais après, les gens, ils projettent des choses. On est dans une société où il y a en permanence un jeu de projection. Et l'apparence de ce qu'on projette, c'est lourd à porter finalement, parce que c'est toujours un... Moi, je sais que j'ai eu un parcours où ça a été très long. En tant qu'étudiante, j'étais très isolée. Ensuite, ça a été un parcours très long, déjà parce que je venais de province, que j'étais une femme, qu'en plus, j'étais très timide, une hyper introvertie. Je pense que tout ça, ça joue. Les gens, par a priori, ont une condescendance ou un mépris. Et donc, ça a été très long. Mais ça a été, par contre, un parcours très régulier. J'ai beaucoup travaillé. J'ai avancé. Et petit à petit, j'ai gagné en visibilité. Tout lentement. Mais avec du travail.
Et tu dirais que tu as été aidée et soutenue par différentes personnes au fur et à mesure de ton parcours ?
On a toujours, heureusement, de belles rencontres sur le chemin. Il faut oublier les choses désagréables et se concentrer sur les belles rencontres. Beaucoup de femmes.
Oui.
Ouais.
Mmh. D'ailleurs, tu travailles avec une galeriste.
Barbara Paula, voilà. Qui a été une rencontre importante dans mon parcours et dans ma vie, qui est ma galeriste, qui est aussi pour moi mon amie. Mmh. Mais je préfère vraiment toujours regarder ce qui a été positif, même si ça a été très long. On a tous des déceptions, on a tous des trahisons. Mais il faut toujours regarder le positif et aller de l'avant. Et je pense que c'est comme ça que... Voilà. Sinon, on perd notre force.
Ah oui. Et penses-tu que le fait d'être une femme fait qu'il y a plus d'entraves encore dans ce parcours?
Je pense, oui, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, tout simplement.
Voilà.
Parce que quand on est une femme, il y a des préjugés,
des pressions, des
préjugés. Et voilà, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il faut faire les choses qu'on a envie. Il ne faut pas se mettre d'entrave. et avancer. Et voilà.
Et alors justement, pour revenir à des questions qui pourraient être vues comme une entrave... Toi, tu as un enfant, donc le rapport à la maternité a un rôle particulier, et est-ce que peut-être dans ton travail aussi, et est-ce que ça t'a posé des problèmes?
Alors c'est sûr que quand on est, on nous dit tout le temps, tout va s'arrêter, là, donc beaucoup de pression et de choses négatives... On m'a dit les pires choses, mais j'avais envie. J'avais envie de vivre l'expérience de la maternité. Pour moi, c'était un fait, je voulais le vivre et je voulais vivre ça aussi. Finalement, Ruben, mon fils, ça a été une rencontre extraordinaire dans ma vie, qui m'a donné de la force, qui m'a donné encore plus de courage, quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, j'étais en résidence. J'ai travaillé, j'ai produit 2 pièces pendant quasiment 8 mois. J'ai travaillé sur 2 pièces très importantes de mon travail, fondamentales de mon travail, le foyer et la grande entrave de groupe de porcelaine. Et c'était un travail monumental que j'ai pu faire et que voilà, il y a eu voilà. Et après, de toute façon, les gens nous critiquent toujours parce que quand on a d'abord, on nous dit qu'on ne va arriver à rien, que tout va s'arrêter parce qu'on va avoir un enfant. Et quand ils voient qu'on continue, ils nous disent qu'on est une mauvaise mère parce que comme on fait des choses, quand ils nous voient par exemple faire une exposition, ils font des remarques comme quoi, mais où est ton enfant? Alors qu'on ne fait pas les mêmes à un homme évidemment, mais bon. Moi, j'avoue que je m'en fiche parce que d'une manière ou d'une autre, les gens, ils trouvent toujours une manière de nous critiquer. Donc, autant faire ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin de faire et voilà, d'être dans cette dynamique. Et le foyer, c'est une pièce en céramique, une sculpture en céramique qui est très importante pour moi. Donc, c'est le modelage de plusieurs corps humains, donc les os de plusieurs corps humains, de trois personnes, de deux adultes et d'un enfant que je modèle dans du grès. Et donc ça représente, c'est la forme d'un cercle. Au centre, donc il y a les os modelés et tout le dessous, c'est la même terre que j'ai utilisée que celle que j'ai utilisée pour modeler les os. Mais ce qui diffère entre les deux, c'est le temps et la température de cuisson. Toute la base, j'ai reproduit de la roche volcanique et tout le dessus, j'ai cuit très lentement en température pour arriver à des noirs. Et il y a vraiment le sens du foyer. Le foyer, c'est le lieu qui rassemble les corps et c'est aussi les restes d'un feu. Et ce travail, c'est une vanité. Mmh. Et c'est une vanité qui parle, mais qui est assez positive finalement, parce que le cercle, c'est le premier lieu où les humains se sont rassemblés, parce qu'au tout départ, on était nomades. Et c'est le lieu où se rassemblaient les humains pour parler, pour se nourrir, pour transmettre. C'est le lieu de la transmission, le lieu du partage. Et cette sculpture, elle parle de ça, elle parle de l'héritage, elle parle du partage, elle parle de la force du lien. Mmh. Et en sculpture, souvent, les os, on les représente assemblés, et là, ils forment autre chose. J'ai réutilisé ces os pour former, finalement, ce foyer. Et cette pièce parle du temps aussi, parce que finalement, ces os et cette base sont de la même matière. Et ce qui diffère entre les deux, c'est le temps. Et la température.
Et oui, donc tu parles du foyer, de la réunion, de la famille aussi, d'une certaine façon. Et donc, tout à l'heure, tu disais que la rencontre avec ton fils a été une belle rencontre. Oui. Et avant ça, il y a eu la rencontre avec ton compagnon,
bien sûr,
qui est artiste,
oui,
lui aussi.
Tout à fait. On s'est rencontrés en 2003. Oui. Et depuis 2003, donc on partage le même espace de vie, on partage l'espace de travail. On partage intellectuellement énormément, plastiquement, on parle de nos recherches. Donc c'est vraiment, depuis 2003, on est vraiment dans ce rapport de fusionnel, mais en même temps de grand respect. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation où on a mutuellement une forme d'admiration mutuelle pour le monde de l'autre. Mmh. C'est-à-dire pour ses recherches, pour mes recherches, donc pour les formes plastiques qu'on produit. Donc il y a vraiment, on s'entraide beaucoup, on parle beaucoup et voilà, il y a un grand respect.
Mmh. Et votre travail est pourtant extrêmement différent.
Extrêmement différent.
Mais ça vous est arrivé quand même de vouloir faire un projet ensemble, comme le fameux village abandonné.
Tout à fait. Ça, c'était une aventure magnifique. Ça, on échangeait depuis des années. C'était quand même au bout de longues années de vie commune qu'on a pu faire ce projet ensemble dans ce village abandonné. Donc c'était un village à la frontière basque espagnole, le village des Gulbati, un village qui a été abandonné, et on a décidé donc de faire un projet qui donnait en fait parler de la mémoire de ce village. Donc ensemble on a inventé une cérémonie vernaculaire. Et au cours de cette cérémonie qui rassemblait des gens, on a vraiment redonné vie et parlé de la mémoire de ce village, moi à travers la sculpture et Nicolas à travers un travail sur l'architecture et la peinture.
Mmh. Mmh. Et il y avait aussi justement une sorte de retour autour du foyer.
Exactement.
Et du feu.
Et du feu, oui, ça c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans mon travail. Donc les gens étaient invités dans un village un peu plus bas à nous rejoindre. Ils sont venus à travers la nuit, ils sont montés. Et on avait choisi une nuit de pleine lune, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, donc pour qu'il y ait une lumière au-dessus de nous. Et on a fait venir des musiciens qui étaient des tchalapartistes, mais qui étaient cachés tout le temps. Les tchalapartistes, c'est des musiciens qui frappent des bâtons, et ils communiquent entre eux, parce que le son répercute dans les montagnes. Mmh. Et donc, ils frappent des bâtons qui, en fait, le son se cogne dans les montagnes et font une forme de mélodie. Et les gens sont montés et sont arrivés dans le village, les restes du village. Donc, Nicolas avait fait un travail sur l'architecture des maisons abandonnées, parce qu'il avait remarqué que les maisons avaient été, à un moment donné, elles avaient été bouchées. Mais les gens avaient brisé les entrées des maisons pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Certains s'étaient réappropriés les maisons en réhabitant dedans. Et donc, il est venu souligner avec les ouvertures de ces maisons, avec un travail de métal qui était peint avec une lumière phosphorescente. Donc, il récupérait la lumière du jour pour la retransmettre la nuit. Et donc, les gens déambulaient, voyaient ces ouvertures flottantes des maisons. Et ensuite, il y avait ce feu, donc il pensait que c'était un immense feu de la Saint-Jean, un grand feu de 3 mètres de diamètre. Donc j'avais creusé un trou dans le village, que j'étais venue habiller de briques, de tuiles des maisons. Oui. Et ensuite, il y avait cet immense feu. Donc quand les gens sont arrivés, ils pensaient que c'était seulement un feu. Donc on a passé toute la nuit autour du feu. Moi, j'ai fait monter la température du feu, donc c'est parce qu'en fait, c'était un four. Et au petit matin, donc les musiciens, les gens s'étaient endormis dans le village à différents endroits, et les musiciens ont refrappé les bâtons. Instinctivement, tout le monde est revenu autour du feu, et là ils ont découvert qu'en fait c'était un four. Mmh. Et j'ai sorti les sculptures du four qui étaient des grands bâtons. Mmh. Et ces bâtons, donc j'avais récupéré toutes sortes d'éléments de céramique dans le village, des éléments de toutes les différentes époques où le village avait été habité. Et ces éléments de céramique, je les avais mélangés à de l'argile et j'avais modelé des grands bâtons. Et au petit matin, on a sorti du feu ces grands bâtons qui évoquaient tout ce rapport au temps qui était lié ensemble de toutes ces époques, mais aussi le bâton qui évoque le bâton du voyageur, le bâton du... Voilà, donc il y avait toute une symbolique, mais aussi une poésie qui était liée à ces bâtons.
Et alors justement, comment te viennent les idées? Et ensuite, comment tu vas trouver le médium le plus approprié ou la façon de faire, comme tu viens de le décrire, pour leur donner une forme?
Souvent, les idées, vraiment, elles s'enchaînent. Donc, parce que comme tu as pu voir sur l'ensemble de mon travail, de 2005 à aujourd'hui, il y a vraiment toute une logique. En fait, chaque pièce amène une autre pièce qui amène une autre pièce. Donc, je pars vraiment souvent d'une image mentale qui est souvent engendrée soit par une expérience vécue, soit par une lecture ou par un travail aussi de recherche, comme par exemple quand j'avais été en Tasmanie pour ma résidence et mon exposition pour le Dark Mofo Festival, et que j'ai visité sur place des prisons pour femmes, et après il y a eu l'amorce d'une idée, une sensation. Et donc souvent ça part d'une sensation, une expérience, et après je vais avoir une image mentale, et après à partir de cette image mentale, je vais chercher vraiment le matériau qui va pouvoir me permettre de transmettre au plus juste, parce que chaque matière porte vraiment un sens, une émotion, une sensation, et c'est ça que je recherche. Et après, parfois j'apprends le médium. J'apprends à l'utiliser. Au tout début, c'est comme ça que je suis tombée dans la céramique. Parce qu'il y avait vraiment ce besoin d'utiliser. Pour moi, c'était une évidence, la porcelaine, pour les entraves. Et je n'avais jamais touché de terre de ma vie. Donc, j'ai vraiment appris à travailler. Et voilà. Et parfois, en travaillant, des fois aussi, il y a des projets qui viennent du fait que je découvre une matière. Et c'est aussi cette matière, parfois, qui influence mon projet, comme pour les haches.
C'est ce que j'allais prendre comme exemple.
Exactement. Parce que quand je suis arrivée en Belgique, donc je me suis dit, bon, je vais travailler avec les terres de Belgique aussi. Mais voilà. Et j'ai été voir les argilières, les différentes terres qui existaient. Et là-bas, j'ai découvert une terre que j'ai trouvée très belle, une terre brune, très chargée en manganèse. Et quand je me suis renseignée sur la terre, tout le monde m'a dit... Oh, attention, on travaille surtout pas cette terre, c'est une calamité, elle se déforme, c'est terrible. Je me suis dit, mais tiens, mais En fait, elle est super intéressante, cette terre, justement, parce qu'elle se déforme. Et je me suis dit, je vais parler du geste avec cette terre. Et après, je voulais parler du geste, j'avais la matière, et là, j'ai pensé à la hache. Parce que la hache, c'est le prolongement du bras. Donc, il y avait ce rapport au geste. C'est aussi un outil, mais ambigu, parce que c'est un outil qui peut évoquer une arme aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de... une violence sous-tendue. Après j'ai vraiment joué, j'ai fait un travail de moulage et ensuite j'ai joué avec des déséquilibres dans le four et c'est comme ça que les haches se vrillent différemment et qu'elles peuvent évoquer le mouvement. Parce que finalement quand on les voit, elles sont comme plantées dans le mur et quand on les voit, il y a vraiment ce rapport, on dirait qu'elles sont dans le geste et dans le mouvement. Alors que finalement c'est pas par mon geste que j'ai produit ça, c'est le confinement dans le four. La chaleur qui l'a vrillé, c'est la force du four qui l'a vrillé, pas ma force.
C'est intéressant parce que tu utilises le mot confinement dans le four. Et confinement, c'est ce qu'on vient de vivre actuellement. Et peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que ça va amener à des transformations, justement, des mutations? Comment tu perçois cette notion-là?
Je ne sais pas parce que les gens oublient vite aussi.
Oui.
Nous, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, je pense qu'on a eu un bon échauffement, parce que ça fait des années finalement qu'on vit confinés à moitié. Ah oui. j'ai pas ressenti... Moi, ce qui m'a heurté plus, c'est plus la violence des morts, de voir un peu tout ce qui se passait autour de moi. Ça m'a heurté, mais finalement... Le fait d'être enfermé, je crois que c'était pas si différent de ce qu'en tant qu'artiste on fait, parce qu'on est isolé, on est plutôt. Voilà, mais par contre, pour de là à penser qu'il peut y avoir un changement, je veux voir, je demande à voir parce que je trouve que les gens oublient vite les choses et je sais pas. Je suis peut-être pas très optimiste, mais je pense qu'ils vont recommencer très vite à vivre de la même manière qu'avant. Mais peut-être que je me trompe, hein. C'est juste un avis, c'est juste...
et alors justement, est-ce que tu as un désir ou un rêve d'exposition en ce moment qui serait peut-être un peu différent de ce qu'on avait vécu jusqu'à présent et qui pourrait évoquer cette transformation-là?
Le confinement et l'enfermement, c'est des notions... que je traite depuis toujours dans mon travail, c'est des choses qui sont importantes pour moi, cette réflexion.
C'est la question de l'entrave et de la liberté aussi.
Oui, dans mon travail, il y a toujours cette tension entre l'enfermement, le conditionnement et la liberté, et le voyage et l'enfermement, donc le rapport au corps, à l'évasion par l'esprit, donc c'est des choses qui reviennent depuis toujours. Et je prépare une exposition, donc je pense pas que c'est le confinement qui m'a
amené à changer
ma réflexion. Mais par contre, j'ai trouvé intéressant de voir que les gens... Parce que moi, j'avais déjà dans ma vie un rapport... J'ai eu un rapport à l'enfermement et au conditionnement qui fait que c'est une réflexion importante dans mon travail. Mais j'ai trouvé intéressant de voir comment les... que les gens de pouvoir partager après avec les gens ce rapport.
Puis les gens qui ne sont pas comme des artistes, qui n'ont pas eu cette habitude-là, pour eux, c'était très nouveau. Donc non, ça va être intéressant, peut-être ton exposition va peut-être faire survenir beaucoup de réflexions autour de ces questions.
Là, je préparais déjà en amont au confinement et à la pandémie un projet autour de... pour l'abbaye de Maubuisson, donc un projet qui sera présenté à partir d'octobre à l'abbaye de Maubuisson, un projet qui s'appelle Les Éloignées et qui est un projet sur les femmes reléguées et les sœurs. Donc c'est un projet qui traite de l'éloignement des femmes, en fait, comment les femmes ont pu être donc éloignées. Et aussi par le projet que je prépare pour le Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles, où ce sera des pièces plus anciennes, aussi quelques nouvelles pièces que je présente, et qui traitent aussi de cette thématique. Mais comme je te dis, c'est une thématique qui est vraiment...
Le
fil de ma réflexion depuis 20 ans.
Donc on va arriver à la fin de notre entretien. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait une œuvre qui t'avait énormément marqué au fil de ta vie ou au début de ta carrière et qui peut-être t'a donné envie de devenir artiste. Et dans ce cas-là, quelle serait cette œuvre ?
Comme je te disais, moi, je viens d'un milieu populaire, de province, je pensais pas pouvoir être artiste, que c'était un métier ou quoi que ce soit. Bon, enfant, je voulais être marin. Il y avait quand même ce rapport à l'évasion. Et adolescente, j'ai été vraiment fascinée par le langage gestuel. Et donc, j'ai appris le langage gestuel quand j'étais adolescente auprès de malentendants. Et après, je voulais faire un métier qui était en lien avec le langage gestuel qui me fascinait. Et à ce moment-là, au lycée, il y a un groupe d'étudiants de la faculté de philosophie qui sont venus visiter en fait, le lycée. Et j'étais en art plastique et qui ont vu mes peintures et qui ont décidé de m'organiser une exposition personnelle. Ils ont organisé des tables rondes, des choses, toutes sortes de choses autour de mon travail. Et c'est vraiment eux qui m'ont poussée à aller aux Beaux-Arts. Et ils m'ont dit, mais tu dois aller. Et moi, je disais, mais non, moi, je veux travailler avec les malentendants parce que j'étais fascinée par ce monde. Ils m'ont dit, je me suis un peu fait pousser par ces jeunes étudiants en philosophie vers les Beaux-Arts. Et donc, j'avais pas forcément une culture... Donc, je ne veux pas mentir en parlant d'une œuvre en particulier. Mais par contre, il y avait un poème qui me plaisait énormément depuis toujours. Je lisais beaucoup de poésie, j'aimais beaucoup la poésie. Je peignais aussi, mais sans avoir vraiment une culture. Et je dessinais, je faisais toutes sortes de choses. Mais... Donc, je ne veux pas mentir en parlant d'une œuvre. Voilà, je vais parler juste de ce poème que d'ailleurs, j'ai utilisé pour mon concours aux Beaux-Arts. Parce qu'on avait pour le concours d'entrée, je me suis appuyée sur ce poème pour faire ma réalisation de passage au concours d'entrée des Beaux-Arts. Et ce poème, c'est Arthur Rimbaud, bien évidemment, parce que j'avais 17 ans. Donc ce poème, c'est Le Dormeur du Val. Et si tu veux, je peux le lire.
Avec plaisir.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait en somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Merci beaucoup, Rachel. À très bientôt.
Merci.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.